Je m'appelle Didier. Mon épouse est décédée de maladie. J'ai toujours été convaincu que le temps ne suffirait pas à apaiser ma tristesse. J'ai cherché des ressources autour de moi pour traverser cette période. J'habite au Pays Basque. J'ai trouvé des appuis qui me permettent d'être là aujourd'hui, de parler devant ce micro pour partager mon expérience et vous encourager, pour vous aider à faire les premiers pas difficiles sur ce nouveau chemin que vous comme moi, vous n'avez pas choisi, mais aussi pour remettre en question des idées reçues et des tabous, pour vous faire rencontrer des personnes inspirantes qui peuvent être là pour vous aussi comme elles l'ont été pour moi. La perte et le deuil sont dans notre vie, inutile de se le cacher, on va en parler au contraire. Le deuil autrement, c'est une autre route que nous pouvons prendre ensemble. Je n'ai aucune connaissance professionnelle ni rien à vendre dans ce domaine. Si vous avez appuyé sur play pour ce podcast, félicitations, vous avez fait un premier pas. Venez avec moi, je vous emmène. Alors dans cet épisode et ceux qui vont suivre, on a décidé de se prendre par la main. Je sais, c'est pas très facile, c'est pas toujours possible, mais là on décide d'être dans la vie telle qu'elle se présente. Quelque part, en ayant des activités, en réalisant des choses, ben on se reconstruit. Et bien sûr, le manque que l'on vit, lui, il sera toujours là. Mais ça nous permet de nous solidifier un petit peu dans cette période où, évidemment, on est vulnérable, où une partie de nous-mêmes a disparu avec le décès de la personne qu'on aimait. Alors, ça nous permet de nous reconstruire. Et ces personnes diverses et variées que je vais vous présenter les unes après les autres, ben, peuvent participer à ça. En tout cas, moi, ça a été mon expérience. Et moi, ça m'a fait du bien et je voulais vous partager tout ça. Et surtout, pas de culpabilité hein, de faire des choses pour vous, car c'est la vie qui est là. Et c'est comme ça qu'on peut traverser en laissant aussi la vie nous proposer ce qui vient et finalement ce qui est bon pour nous. Laissez-vous guider à travers ces personnes, je suis sûr que vous trouverez des choses intéressantes. Bah écoutez, aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un que je ne pensais pas rencontrer. Bah, évidemment, n'étant pas pratiquant et simplement baptisé comme beaucoup de Français dans les années 60-70, j'avais pas eu de contact direct en matière de religion, de spiritualité, avec l'Église catholique, pas de contact particulier. Aujourd'hui, je suis très honoré de recevoir Dominique Éricard. Bonjour Dominique.
Bonjour Didier, bonjour.
C'est vrai que j'étais vraiment, on va dire, au niveau zéro, hein, surtout quelqu'un qui n'a pas d'attachement particulier à cette réflexion sur le sens de la vie ou l'existence de Dieu, avant évidemment qu'il se passe le deuil de mon épouse. Et donc, comme beaucoup de monde, je menais un peu la vie par les deux bouts, sans vraiment beaucoup y réfléchir. Et j'avoue que la première fois que un homme d'église, en l'occurrence le curé de la paroisse d'Asparin, quand il est entré chez moi dans ma maison, j'avoue que j'ai eu un choc, disons plutôt une émotion. J'ai eu une émotion de rencontrer cette personne et finalement d'être face à quelque chose de très nouveau. Donc je tenais, Dominique, à vous interviewer, à partager ça avec le plus grand nombre, parce que vous aussi, vous avez été d'un grand secours pour moi, et je pense que c'est intéressant, et dans le podcast, il y a des tas de profils différents, et votre profil, pour moi, il est intéressant de le découvrir aussi. Alors quand je dis vous, c'est vous et bien sûr vos collègues de l'Église au sens large. Donc dans ce podcast, on prend les choses chronologiquement depuis la date du décès et on regarde ce qui se passe jour après jour. C'est le parti pris que j'ai pris. Mais là, on va effectivement un peu déroger à la règle puisqu'on va revenir quelques jours, quelques semaines avant le décès. Tout à l'heure, donc mon épouse est souffrante, est malade. On sait qu'elle est condamnée à brève échéance, le temps a passé. Et vous entrez chez moi ce soir-là parce que vous y étiez invité. On vous a demandé de venir ce soir-là. Vous entrez vêtu très sobrement, évidemment pas en tenue religieuse. Et quand je vous ai vu entrer, moi j'ai senti que j'entrais dans un moment très fort. À ce moment-là, c'était très puissant. Alors, on va laisser le suspense, on va en parler tout à l'heure. Donc, on s'est rencontrés à ce moment-là, et plus tard, quelques jours, quelques semaines après, mon épouse décède, et puis vous avez bien voulu mener la cérémonie des funérailles dans cette petite chapelle d'Elisabéry à Hasparren, qui est très, très mignonne. Donc, si je refais un bond dans la chronologie, on va revenir à la cérémonie. Je voulais partager ça parce que la cérémonie dans l'église, ou je veux dire la cérémonie quelle qu'elle soit, c'est un élément majeur pour les proches. Cette cérémonie portée par vous précisément dans ce lieu, c'était vraiment un événement important, marquant. Je ne vais pas dire que c'était un bel événement parce que ce sont des obsèques, mais quelque part, oui, c'était beau. En tout cas, c'était très émouvant, c'était puissant. Il y avait une cohésion, évidemment, une communion de tout le monde ce jour-là. Il y avait quelque chose qui était voilà, très solennel et en même temps, voilà, un peu à l'image. Je pense de ce qu'on voulait. En tout cas, c'était à la hauteur de ce qu'on aurait pu imaginer. Il y avait beaucoup de monde dans cet espace qui était petit, un peu restreint. Et donc, il y avait un effet de masse qui le rendait ça important. Alors, pour commencer, je vous remercie d'avoir accepté cette petite interview. Encore une fois, l'objectif, c'est d'aider les gens qui ont perdu quelqu'un. Qui ont perdu leur conjoint ou qui ont perdu quelqu'un de proche à travers le partage d'expériences pour les encourager peut-être à faire des pas qu'ils n'auraient pas fait spontanément. Et quand on est seul et quand on est dans le deuil, on est seul et parfois on s'isole. Et donc cette partie de podcast, elle est là pour voilà, suggérer peut-être des choses auxquelles on n'aurait pas penser spontanément. Alors pour commencer, je pose toujours les trois mêmes questions à mes invités. La première, c'est qu'est-ce que vous avez pensé lorsque je vous ai proposé de participer à ce podcast? La deuxième, c'est par rapport au deuil dans votre vie personnelle, vous avez sûrement un deuil qui vous a marqué davantage que les autres, et est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire un petit peu plus? Et troisième question, par rapport à cette propre expérience personnelle, finalement, est-ce que vous avez un conseil à nous donner? Donc, première question, Dominique, quand je vous ai proposé de participer à ce podcast, qu'est-ce qui vous est venu spontanément? Quelle était votre réaction?
Mais ma réaction, vous l'avez évoquée un peu vous-même, parce que j'ai entendu votre appel, votre invitation, et je me suis dit que cette invitation, elle peut certainement aider d'autres personnes qui traversent un peu la même épreuve que vous, que vous avez traversée, et elle peut les aider, je crois, à vivre le départ d'un être cher d'une manière, je ne sais pas s'il faut dire sereine, mais d'une manière qui permette de vivre le passage. Parce que ce passage, on le vit à deux, au moins à deux. Lorsqu'on est époux et épouse, on le vit à deux. C'est-à-dire, il y a celui qui part, qui fait ce passage vers l'ailleurs, au-delà de ce que l'on voit et de ce que l'on sait. Et puis, il y a le passage de la personne qui reste. Et la personne qui reste, eh bien, c'est elle qui est affrontée à un deuil. Elle ne sait pas trop comment elle le vivra parce que c'est une grande inconnue pour la personne qui reste. Voilà. Et alors, donc, si mes paroles et les paroles des autres personnes que vous avez interviewées peuvent les aider, ben c'est une belle chose. Tant mieux, tant mieux.
Merci. Alors, deuxième question. Vous, à titre personnel, j'imagine que, comme tout le monde, vous avez été confronté à un deuil plus sensible, plus compliqué, avec quelqu'un, voilà, de proche. Est-ce que vous pouvez nous partager cette expérience, nous dire de qui il s'agissait, dans quelles circonstances, voilà, sans rentrer trop dans les détails, mais racontez-nous votre propre expérience.
La première expérience, celle qui m'a marqué le plus, c'est un mois ou 2 mois après mon ordination sacerdotale, donc j'avais 28 ans, et j'ai perdu par accident l'un de mes meilleurs copains, qui avait mon âge, voilà. Et il a fallu préparer les obsèques avec sa famille, alors que moi-même j'étais, comment je vais dire, affectivement impliqué avec cette personne-là, et c'était notre bande de copains, quoi, voilà. Et lui qui aimait faire la fête, il s'appelait Jeando, lui qui aimait faire la fête, eh bien, il est mort au travail. Et il est mort dans un accident de travail. Alors donc, on l'aurait bien vu, enfin, bien vu, c'est une manière très... Maintenant que ça fait presque 40 ans, bon, mais on l'aurait bien vu, disons, mourir dans un accident de voiture après une fête que dans un accident de travail, voilà. Et donc, lorsqu'il a fallu affronter cela, ça a été le premier deuil non familial, si vous voulez, mais deuil d'un proche, parce que les amis, on les choisit. Hein. Et donc, le deuil d'un proche dont il a fallu se séparer. Et se séparer, veut dire, mais la vie ne sera plus pareille maintenant, désormais. Et quand on est jeune, quand on a 28 ans, voilà, moi je garde ça comme un poids, toujours. Bon, le deuil, je l'ai fait, bien sûr, parce que j'étais en lien avec sa famille, avec sa mère, avec son père, etc. Mais le deuil, je l'ai fait. Mais je me souviens de ça comme quelque chose qui a beaucoup marqué ma première année de vie comme prêtre. Voilà. Et je me suis dit, eh bien, lorsque tu seras affronté avec d'autres dans ta responsabilité de prêtre, eh bien, il restera une trace de ce que tu as vécu là. Par rapport à Jeannot, voilà. Bon, après, bien sûr, hélas, on est affronté à beaucoup de... Hélas, oui, beaucoup et très, très souvent au deuil de beaucoup de personnes. Et il y a des deuils qui nous marquent plus que d'autres, enfin, des expériences, des rencontres qui nous marquent beaucoup plus que d'autres. Hein. Et j'ai en mémoire la rencontre avec la famille d'un jeune papa qui s'est suicidé sans donner aucune explication, sans rien, d'une manière absolument imprévisible et imprévue, voilà, et qui est parti dans son grand silence. Bon, voilà, ça aussi, ça nous marque. Et puis, ce qui est un peu, même très difficile, c'est d'écouter la douleur et tous les non-dits de la personne qui vit ce deuil-là, qui est à côté, qui n'y est pour rien, qui ne comprend pas, etc. Voilà. Pourquoi, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait, bon Dieu, pour arriver à ça, etc. Voilà. Des personnes qui sont croyantes, il y a une période de révolte dans ce questionnement. Alors, bien sûr, moi, ça me marque terriblement, enfin, parce que je suis là, les mains nues. Voilà. Qu'est-ce que je peux leur dire? Dieu n'a pas voulu ça, ouais. Bien sûr, hein, voilà. Mais
donc ce deuil de votre ami, vous avez 28 ans vous dites j'ai fait mon deuil, mais où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à cette personne-là, hein? Est-ce que vous y pensez de temps en temps, est-ce que vous convoquer un peu son souvenir à certains moments, est-ce que c'est toujours aigu, cette tristesse,
Non, ce n'est plus de la tristesse, je ne peux plus dire que ce soit de la tristesse, parce que j'ai une grande espérance dans l'au-delà de la mort, voilà. Ouais. Hein. Ouais. Et c'est ce qui fait le fondement de ma vie. Hein. Ouais. Mais de la tristesse quand même, d'avoir perdu un ami, et que cet ami, je ne l'ai plus, voilà. Bon, il a été, je n'ose pas dire remplacé, mais il y en a bien d'autres que j'ai connus au fur et à mesure de mon avancée dans la vie. Heureusement, je dirais. Hein. Mais lorsque je vais au cimetière familial, qui est à la Ressort, eh bien, je m'arrête extrêmement souvent devant sa tombe. Ouais. Et là, je prie, et je lui parle. Voilà, bon.
Ouais, d'accord.
Je me rappelle lui avoir dit, si tu savais combien tu nous manques. Voilà, bon. Voilà. Ce sont des belles choses qu'on a traversées ensemble, tous ensemble, dans la bande de copains que nous étions à l'époque.
Ouais. D'accord. Et donc, si par rapport à votre expérience, là, si vous aviez un conseil comme ça, à froid plutôt, si vous aviez un conseil à donner aux personnes qui sont en deuil, par rapport à vous, votre expérience de ce deuil-là, vous diriez, est-ce que vous pourriez dire quelque chose ?
Je dirais, la première chose, c'est laisser faire les choses. C'est-à-dire, se dire, voilà, la réalité est celle-là. Voilà. Je ne peux pas la changer. Maintenant, moi, je suis bousculé par cette réalité. Et c'est peut-être à moi à déplacer des choses qui étaient trop, trop bien placées en moi, ou qui étaient trop, trop tranquilles en moi. Eh bien, je dois vivre cet affrontement en me disant, c'est à moi à me déplacer, c'est à ce que je pense, c'est ce que je pense qui doit être déplacé, qui doit être illuminé par d'autres choses. Bon, pour moi, ça a été illuminé très, très rapidement par la foi. Voilà, parce que je crois en la résurrection. Je crois que celui qui meurt ne part pas au pays des inutiles, ni au pays des inconnus, ni dans le gouffre de l'obscurité. Non, il part rejoindre la communion de Dieu. Et je pense que c'est en Dieu que nous pouvons nous retrouver tous. Et lorsque je suis dans la prière et que je célèbre la messe, je suis en communion avec... je crois être en communion avec tous ceux que j'ai accompagnés vers Dieu et avec tous ceux qui me manquent aujourd'hui, bien sûr.
Bien sûr, vous êtes un homme d'église, donc voilà, cette foi, elle est...
Je suis marqué par ça.
Oui, bien sûr. Mais on peut avoir la foi en Dieu, on peut avoir la foi dans d'autres choses aussi qui illuminent, si je reprends votre terme, qui est jolie.
La foi en la vie, hein. Et le souvenir qui reste vivant. Je crois que Didier, c'est ce que vous vivez, un souvenir vivant, une mémoire vive, dans la présence. Qui se passe d'une autre manière, mais une présence quand même, voilà.
Dans le cœur, tout à fait. Bon, merci beaucoup Dominique sur cette expérience personnelle là, qu'on partage. C'est aussi, ça montre bien que, je veux dire, tout le monde est confronté à ça, et c'est aussi un peu le message que je passe avec ce podcast. Alors, si on revient, on parle du deuil, on parle du décès, mais on va dire un mot sur ce qui s'est passé un petit peu avant le décès par rapport à mon épouse. C'est pas la pratique jusqu'à maintenant, puisque le podcast il démarre le jour du décès, mais on va revenir là-dessus. Un mot, puisque nos amis, mon épouse a des amis qui sont plus pratiquantes, on va dire, et qui vous ont invité. Mon épouse et elle, à venir à la maison pour ce qu'on appelle le sacrement des malades et ce qu'on appelait avant l'extrême onction, je crois. Alors, expliquez-nous un peu de quoi il s'agit.
Alors, le sacrement des malades, un sacrement, c'est déjà la reconnaissance par des croyants de la présence d'un Dieu qui agit dans la personne que ce Dieu rencontre, que Jésus rencontre. Et le sacrement des malades, il est marqué par un geste et une parole. Le geste, c'est celui de l'onction avec l'huile des malades qui est consacrée par l'évêque et qui est distribuée dans toutes les paroisses du diocèse et que les prêtres, parce qu'il n'y a que les prêtres qui le donnent, eh bien, qui font une onction sur le front, les mains et des fois les pieds de la personne qui est en état de souffrance, en état de maladie. Hein, voilà. Et qui pense peut-être à la mort. Mais pas nécessairement. Hein. Ce sacrement peut être donné à la veille d'une opération importante, d'une opération grave, par exemple.
Hein. D'accord.
Où il y a un souci très, très important d'une personne qui souffre psychologiquement. Hein. Voilà. Bon. Alors, longtemps, on l'a appelé le sacrement l'extrême onction, parce que c'était l'onction de l'extrémité de la vie.
Hein. C'est ça.
Voilà. Maintenant, on l'appelle le sacrement des malades parce qu'il est donné, il est fait pour aider les malades à vivre leur maladie, leur situation de souffrance, et alors ouvrir une perspective qui ne les enferme pas dans la maladie et qui ne les engouffre pas dans la mort, mais qui leur donne l'assurance que Dieu les accompagne à travers ce sacrement, à travers ce geste et la parole qui est donnée. Le geste aussi que fait le prêtre, c'est le geste que faisait Jésus lorsqu'il guérissait les malades, il leur imposait les mains, on le voit dans l'évangile souvent, hein. Il leur imposait la main, donc pour le dire, tu es dans la tendresse de Dieu, tu es dans la main de Dieu, voilà. Et dans le sacrement des malades, nous remettons cette personne qui souffre entre les mains de Dieu et que Dieu l'accompagne. Et Dieu sait ce qu'il veut faire de cette personne-là, nous non. Voilà. Alors il y a des personnes qui se relèvent, heureusement. Hein. Et c'est un passage, il y a des passages douloureux, et alors ce passage-là, il peut être pour la vie sur notre terre comme il peut être pour la vie dans le ciel.
Et alors je me souviens très bien, mon épouse était sur le canapé, allongée, assez paisible, enfin elle était plutôt contente de...
Oui, sereine, ça m'a frappé, ouais. sa sérénité qui se lisait dans ses yeux.
Ouais.
Ça m'a beaucoup marqué.
Et donc nos amis étaient là autour, et moi c'est vraiment une image très marquante de ce geste de vous, encore une fois chez moi dans le séjour, dans mon intimité avec mon épouse là, c'était quelque chose de très fort, parce que peut-être que moi j'étais encore pas tout à fait, peut-être que je me cachais encore des choses et peut-être que j'espérais, et là ça venait consacrer le fait que là on était dans quelque chose quand même d'irréversible, nous, et ça venait
et
bien.
Elle était parfaitement consciente.
Ouais, tout à fait.
C'est pour cela qu'elle avait demandé, bien sûr. Hein.
Elle
a vécu ce moment-là dans une confiance extraordinaire.
Ouais.
Et puis dans une sérénité, une paix qui pour moi reste aussi un souvenir extraordinaire. Hein. Bien entendu, on est touché par ça.
Oui, tout à fait. Donc vous faites Ce geste-là, c'est un geste qui est courant, vous le
Oui.
faites beaucoup.
Il est lié au sacrement. Alors qu'on en fait beaucoup, je n'ose pas dire qu'on en fait beaucoup, c'est-à-dire les familles nous appellent. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les familles ont peur de faire venir le prêtre parce qu'ils pensent que le malade va se dire, ça y est, c'est le dernier moment est arrivé, donc je suis foutu. Mais c'est pour cela qu'on est dans nos homélies, nos rencontres les uns avec les autres, on leur dit non, n'attendez pas la dernière minute pour appeler le prêtre, c'est le sacrement des malades, ce n'est pas l'extrême onction. C'est le sacrement des malades, donc c'est le sacrement qui accompagne le malade, non pas vers la mort, mais vers la vie. Alors vers la vie, si, tout simplement,
Oui.
ou la vie dans l'au-delà aussi, pourquoi pas.
Ouais,
Mais en tout
ouais.
cas, c'est de vie qu'il s'agit. Hein. Voilà. Et Dieu est présent, Dieu t'accompagne, Dieu est avec nous, Dieu est avec toi. Et c'est
Bon.
pour ça que ce sacrement, on l'a vécu aussi dans un milieu, il y avait vous, mais il y avait toutes ces amies qui étaient
Oui, tout
là.
à
Hein.
fait,
Et
oui.
ce sont ces amies qui avaient, avec son accord, qui m'ont demandé.
Tout à
Hein.
fait,
Et
oui.
donc nous avons vécu ça comme un grand moment de la vie de l'Église, de la vie d'une communauté chrétienne.
Ouais,
Hein.
ouais.
Et on l'a vécu dans la foi. Et je dirais, dans la foi, il y a une grande sérénité, même lorsqu'on sait que les choses sont irréversibles. Hein. Voilà. Et votre épouse l'a vécu comme cela aussi. Hein. Là, j'en suis témoin, vraiment. Hein.
Tout
Alors.
à fait. Bien, merci. Donc on ferme la parenthèse sur cet événement qui a eu lieu avant son décès. Donc je repasse la chronologie du temps. Donc elle décède et c'est vrai que je suis venu vous voir puisque on a fixé une date de cérémonie, je crois avec les pompes funèbres qui font le lien et on avait cette petite chapelle qui était disponible. Donc je suis venu vous voir et on s'est vu tout simplement pour organiser les choses et puis pour vous parler d'elle parce que vous, à l'occasion de cet événement, quelque part, vous nous aidez un peu dans cette transition et dans cet événement, dans ces funérailles. Il se passe beaucoup de choses, consciemment ou pas. Et moi, je l'ai dit en l'occurrence cette matinée, c'est une des plus difficiles de ma vie hein, que j'ai vécue. D'abord, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour commencer, les pompes funèbres nous avaient proposé de porter le cercueil dans l'église, ou bien que nous puissions le faire. C'est ce que j'ai choisi. Et moi, je me souviens très bien, puisque j'ai proposé aux membres de la famille, les garçons, les hommes de la famille, de le porter avec moi, de rentrer et de le poser. Et je vous avoue que là aussi, là, on est dans le concret. On est vraiment dans le concret. On sent ce poids. Qui est lourd quand même, hein, et Dieu sait si elle était, elle, légère sur ces derniers temps, mais on sent quelque chose là, on est vraiment, j'ai du mal à, enfin, on est vraiment dans le concret de la mort, on pose cet objet qui est lourd, on le pose là devant l'autel, on pose une photo dessus, et puis la cérémonie a commencé après deux morceaux de musique qu'on avait choisis. Et déjà, tout le monde est confronté à cet objet qui vient de rentrer au milieu, et accueillir cet objet-là, c'est déjà une étape en soi, quoi.
Bien sûr. Déjà le voir rentrer dans l'église et voir la famille qui porte
Ouais.
un membre très aimé, voilà, et qui le porte sur ses épaules. Et ça symbolise bien le poids du deuil, le poids de l'arrachement, le poids. Et on voudrait le garder encore. Et puis pourtant, il faut s'en détacher.
Ouais.
Et on dépose le cercueil, on le dépose. Et là, il y a déjà une séparation qui est terrible. Déjà que vous avez vécu au moment de la fermeture du cercueil. Parce qu'on se dit, ce visage-là, je ne le verrai plus physiquement. C'est déjà une première étape qui est terrible. Et puis ensuite, la déposition de ce cercueil dans l'église, une nouvelle étape qui vient confirmer la première. Voilà, se dire, voilà. Et là, s'éloigner un peu du cercueil, voilà, pour laisser faire le rite chrétien, si vous voulez. Hein, voilà. Et donc, ça aussi, c'est une étape marquante. J'aime bien dire, lorsque je prépare la célébration, ce n'est pas un cercueil que j'accueille. Ce n'est pas un contenant. Ce n'est pas une caisse. C'est une personne. Et ce cercueil, ce contenant, il est rempli de la vie de la personne et rempli de l'amour qui est autour d'elle. Et cet amour-là, on ne va pas l'enfermer. Le souvenir que l'on garde de l'épaisseur de la vie qui ne sera plus la même maintenant, de cette relation que j'ai eue avec elle, eh bien, ça ne sera plus la même. Mais je la garde. Là, c'est un peu là ce que je peux garder ou sauvegarder d'elle. Elle m'échappe, mais pas tout à fait, parce que je garde énormément de liens avec elle, malgré le cercueil qui est fermé, vous voyez? Et ensuite, il y aura la nouvelle étape qui sera la mise en bière ou bien l'incinération, etc. Voilà.
Tout à fait.
Donc ce sont des détachements qu'il nous faut opérer ben, petit à petit, quoi, je dirais, c'est gradué.
Il y a des gens dans l'assistance, en fait, alors il y en a assez peu, mais il y a une minorité aussi qui viennent parce que ce sont des collègues à moi, ou par exemple, et qui ne la connaissaient pas forcément, et qui voient aussi cet objet arriver là.
Oui, bien sûr.
Paf, je dirais, ils sont aussi confrontés à ça directement. Et c'est vrai que pour tout le monde, vous êtes un médiateur là, et votre parole, elle va traverser tout le monde, les proches, les amis, les collègues, les moins proches. Il peut y avoir des voisins qui viennent. Enfin, il y a vraiment tout un tas de gens. Donc vous faites une sorte de médiation pour parler d'elle, et ce message, il est très important pour nous, parce que nous, on la connaissait très bien. Donc ce que vous allez dire, il est important en fait pour tout le monde. Voilà.
Alors il y a ce que je vais dire, je dirais au nom de ma foi et au nom de la mission qui est la mienne comme curé, mais il y a aussi ce que je vais dire à partir de ce que nous avons partagé dans la rencontre dont vous parliez tout à l'heure.
Ouais, hein, tout à fait.
Parce que moi je ne l'ai pas connu tout au long de sa vie. Moi je ne l'ai rencontré qu'une fois Sylvie,
une seule fois,
à ce moment-là, ouais. Qui était un moment, je dirais, j'ose presque dire parenthèse. Un moment unique, mais parenthèse quand même, hein, parce qu'il y a eu toute la vie avant.
Bien sûr. Voilà.
Et ça, c'est vous qui l'avez vécu avec elle, et vous, et tout le reste de la famille. Et donc, lorsqu'on partage sur cela, bon, moi, je prends quelques notes de manière à pouvoir personnaliser un peu, voilà, et notamment en pensant à ceux qui ne l'ont pas connue. Vous avez raison. Et c'est pour ça que je trouve aussi très intéressant qu'il y ait une photo sur le cercueil qui permet justement aux personnes qui l'ont connue, ou qui ne l'ont pas connue, pardon, et ou bien qui l'ont connue tout à fait à la fin, lorsqu'il a été un peu défiguré par la maladie. Elle n'était pas comme ça tout au long de sa vie. Elle était rayonnante, etc.
Sûr, oui, voilà, oui, hein. Tout à fait.
Et donc, là, une photo qui la montre dans, ouais, bien vivante. Mmh. Voilà. Donc ça peut nous dire, voilà un peu de ce qu'elle était, même si ce n'est pas tout, mais un peu de ce qu'elle était. Et c'est tout cela que nous voulons honorer aujourd'hui, au moment où nous l'accueillons pour la dernière célébration, quoi, la célébration funéraire.
Alors, justement... vous avez là bien réussi cette partie-là, parce que on avait dans la famille des gens qui me disent oh là là, le discours du curé, etc. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Il y a des collègues qui ne la connaissaient pas forcément. Il y avait vraiment une variété, et tout le monde a été unanime en tout cas sur la façon dont vous avez pu transmettre à la fois, voilà, son état d'esprit, sa joie de vivre, voilà, à la fois sa franchise aussi, son caractère, je mets des guillemets parce que elle avait aussi beaucoup de caractère, et donc tout le monde a salué en tout cas la façon dont vous avez pu faire ça, et je vous en remercie. C'était voilà, là aussi un moment important.
C'est vrai, mon premier devoir, c'est d'être fidèle à ce que j'ai entendu, ce que nous avons partagé, hein, de manière à être fidèle à la personne que nous accompagnons et que moi, d'une manière plus particulière, j'accompagne devant Dieu. Je la présente à Dieu. Hein. Je suis l'intermédiaire entre vous et Dieu.
Voilà, oui, votre rôle là-dedans, c'est quoi?
C'est mon rôle de passeur, je dirais.
Oui.
Mon rôle de passeur.
Oui.
On a parlé de ce passage-là.
Oui.
Hein. Moi, j'aime même parler de la mort en termes de passage. Et dans notre diocèse, si ce mot est important dans notre vocabulaire chrétien, le mot passage veut dire Pâques, ou le mot Pâques veut dire passage.
Oui.
Et c'est le passage que le Christ fait de la mort à la vie lorsqu'il ressuscite. Et nous croyons beaucoup, nous croyons à la résurrection, justement, que la mort est un passage. Elle n'est pas la confrontation au néant ou à l'absolu du néant, non, elle est le passage vers la vie en Dieu, ou la plénitude de Dieu, voilà. Alors, ça me réconforte beaucoup, hein, et là, je me sens, je dirais, un peu à l'aise, tout en sachant que tous, et des fois, la plupart, ça arrive d'ailleurs dans les obsèques, que la plupart ne partagent pas cette même foi, y compris dans la famille, voilà. Hein.
Oui.
Et moi, je me dois de dire, ben voilà, vous nous avez demandé une célébration à l'Église, mais moi, je ne peux dire que ce que je peux dire au nom de l'Église et au nom de ma foi, hein, voilà. Sinon, vous l'auriez fait dans une salle communale, etc., ou ailleurs, hein, ou dans la nature. Mais c'est dans une Église, vous demandez ce service à l'Église, et l'Église donne le service qu'elle peut rendre. Voilà, son expérience, elle ne peut donner que son expérience, voilà. Alors, en essayant de respecter tout de même, hein, la foi ou la non-foi des personnes qui sont là, mais qui sont là toutes par affection ou bien par respect pour la personne. Et ça, c'est très important. Et je crois que la fidélité à la vie de ce qu'a vécu la personne que nous accueillons, eh bien, c'est le premier geste de la communication des uns avec les autres, je dirais. Hein. même avant même notre communication avec Dieu.
Est-ce que ce message et ce oui, ce message-là que vous portez, vous, il est toujours le même. Enfin, oui, on va dire, c'est un passage, transition vers Dieu, vers quelque chose d'autre. Ça, ce message-là, je dirais que je crois que vous partez à la retraite. Ça fait plus de 40 ans que vous le portez.
Oui. Mais en l'adaptant toujours à la personne, enfin à la personne dont on, enfin, que nous accompagnons, oui. et à la famille, au contexte familial qui est là. Hein. Voilà. Et à nous de sentir, moi je sens tout de suite s'il y a des paroissiens ou s'il y a des non-paroissiens, ne serait-ce pas par leur attitude,
oui.
Ça va bien. Hein. Et donc, à moi de m'adapter dans mon langage déjà, pour que nous vivions une véritable communication. Je n'ose pas dire communion, parce que je ne vais pas demander imposer la foi à ceux qui nous voient, mais au moins une communication. Et que cette communication soit la plus ajustée possible.
Ouais.
Aux uns et aux autres.
Pour accueillir finalement toutes les sensibilités.
Que les gens ne se sentent pas étrangers,
ouais.
Ou dans une terre inconnue.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
C'est peut-être un terrain inconnu, mais tiens, les paroles que j'ai entendues, eh bien, je les ai reçues, je les ai entendues. Ben, elles m'ont provoqué du respect pour la personne. Tiens, je ne savais pas ça d'elle. Et voilà.
Ouais, tout à fait.
Donc
ouais.
la communion devient plus grande, je dirais. Okay. Voilà, c'est ce passage-là que nous avons à faire aussi les uns avec les autres. Hein.
Ouais. Merci. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, donc, il y avait la cérémonie, donc plusieurs personnes sont intervenues, ont fait passé un message,
un témoignage,
discours, il y a eu sa fille, il y a eu sa sœur, et puis il y a notre ami qui nous a incité à chanter la chanson Alléluia, et à un moment très précis, puisqu'il faisait vraiment, il faisait mauvais dehors, et il faisait très gris, et à un moment, au moment où on a chanté Alléluia, elle nous invitait à nous lever, bon voilà, pour accompagner avec ce chant finalement aussi, une élévation de son âme, de quelque chose, enfin... Et là, il y a eu un rayon de soleil qui a pénétré par le petit vitrail de cette petite chapelle et qui a vraiment frappé le cœur du centre là de cette chapelle avec ses rayons lumineux et ça a été vraiment frappant et tout le monde l'a vu ce rayon de lumière et après la cérémonie quelques jours après je suis venu vous voir et vous vous souveniez de ce rayon de lumière et on m'a dit oui c'est un signe c'est un signe enfin pour vous il n'y avait pas de doute qu'il y avait un signe.
Elle est avec nous. Voilà.
Alors voilà, ma question c'était voilà. Comment vous l'interprétez-vous
ce elle signe. Elle est avec nous. Elle nous dit merci, elle nous dit je suis là, je suis vivante, voilà. Je suis vivante. Ne croyez pas que je suis morte, je suis vivante.
Ouais.
Je suis sur l'autre face de la montagne. Je suis derrière et je vous précède. Non, voilà, moi je le prends d'une manière extrêmement positive. En parlant, j'en ai la chair de poule. Enfin, parce que je trouve que c'est magnifique. Il y a des signes comme ça, on peut l'interpréter tout à fait autrement, hein, ceci dit. Hein. Bon, moi je l'interprète avec ma foi, avec ma sensibilité, etc. Vous voyez, hein. Mais je crois très fort que c'est un signe. Oui.
Et vous avez été confronté à d'autres... Ça arrive parfois.
Lorsqu'on s'est trouvé au cimetière une fois avec une personne, une maman qui, elle, s'était suicidée. Une maman, il y a 3 ans de ça. Une maman, on était au cimetière et on était sur le point de déposer le cercueil dans le tombeau. Et c'est vrai que l'époux et la petite fille étaient là, atterrés. Et voilà que deux oiseaux sont passés, tout à fait, en faisant cuic-cuic-cuic-cuic, là, sont passés là, sur le... Tout près de nous. Bon,
ouais.
Je lui ai dit, c'était pas le moment de lui dire. Je lui ai dit après, je lui ai dit...
Oui, il l'a vu.
Oui, j'ai vu. Oui. Voilà.
Ouais.
Bon, nous avons vu le même signe. Nous avons vu le même signe, point. Chacun en fait ce qu'il veut, voilà. On ne peut pas forcer les interprétations, voilà. Hein.
Bon, mais j'aime bien la vôtre en ce qui concerne mon épouse, oui, tout à fait. C'est bien. Donc ça arrive.
Oui.
Alors, il semble que ça arrive relativement souvent. En tout cas, ça il y a des sociologues qui étudient le phénomène. Ouais. Ça porte un nom maintenant, mais bon, on en a parlé dans un épisode précédent de la première saison de ces signes-là. Alors, le but de ces épisodes du podcast, c'est aussi d'encourager les gens qui sont en deuil à découvrir des choses qui peut-être sont pas toujours familières, qui peuvent aider à traverser cette période. qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Qu'est-ce que vous pourriez leur apporter? Qu'est-ce que l'Église peut leur apporter quand on n'y est pas familier? Alors parfois on pousse la porte pour visiter un monument parce qu'il est beau, parce qu'il y fait frais, en ces saisons, etc. Mais finalement, est-ce que voilà, qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui n'est pas voilà pratiquant aujourd'hui? Est-ce que l'Église peut lui apporter quelque chose? Qu'est-ce qu'elle peut lui apporter?
Moi, il me semble hein, que une personne qui traverse cette période et qui se trouve dans l'obscurité, dans le noir total et dans l'incompréhension de ce qui se passe pour lui, tout en sachant que c'est irréversible, c'est ça qui est terrible hein, dans notre vie, dans notre expérience humaine. Mais je me dis, mais bon, c'est irréversible, voilà la réalité. Il faut que je regarde la réalité en face. Et cette réalité, eh bien, elle ne me conduit pas vers le néant, mais elle me conduit vers un ailleurs, et cet ailleurs, il est plein de lumière. C'est un ailleurs de paix, c'est un ailleurs de plénitude. Voilà. Alors, on appelle ça l'espérance, c'est-à-dire, je ne peux pas vivre sans espérance. Parce que si je vis sans espérance, ma vie n'a aucun sens. Et je me dis que ce moment du passage est un moment où mon espérance peut être renouvelée, peut être revigorée, peut renaître, en tout cas, si j'en ai pas eu jusque-là, hein, elle peut renaître. Mais enfin, bon, voilà, moi je crois que le message de l'Église, le message de Jésus, c'est de nous ouvrir ce moment qui est le moment ultime de notre expérience humaine, mais tout en nous disant que finalement, notre corps, a une histoire, j'ai une histoire, j'ai un début et j'ai aussi une fin, mais cette fin n'est peut-être pas la fin de tout. Voilà. Et j'accueille la parole du Christ qui m'ouvre une espérance, je dirais presque inespérée, et pour des gens qui ne partagent pas la foi des chrétiens, c'est une espérance inespérée, je dis. Et si tu te laissais faire par cette espérance, voilà. Si tu t'ouvrais à cette espérance, c'est un don gratuit. Tu le prends ou tu le prends pas? Voilà, à toi de voir. C'est pas une loterie, tu le prends, tu ouvres tes mains, tu dis je suis prêt à la prendre, et puis d'accord, et puis voilà. Et je peux laisser partir celui que j'aimais tant et dont je suis privé. Je peux le laisser partir parce qu'il continue, il continue ou elle continue sa vie autrement, elle continue d'une manière plus qu'épanouissante, d'une manière qui va la faire entrer dans la plénitude de sa vie. Voilà. Sa vie est accomplie. J'aime bien ce mot aussi, accomplie. Sa vie est accomplie maintenant. Vous voyez? Elle n'est pas achevée. Elle est accomplie. Voilà. Et elle est dans l'accomplissement total, quoi. Voilà. Et pour moi, ça me paraît important, quelle que soit la foi de la personne, laisse-toi faire. Accueille en toi cette possibilité que Dieu t'offre maintenant. Ne te ferme pas cette possibilité, c'est dommage. Tu rates quelque chose, tu rates quelque chose. Parce que moi, je le crois, je crois fermement que cette vie continue. Oh, voilà, oh combien, voilà. Et que de là où elle est, elle continue de nous aider. Nous, tous. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Hein. Elle continue de nous aider, de nous accompagner. Et elle a commencé déjà le premier jour, hein, avec ce petit rayon de soleil qu'il nous a envoyé. Voilà. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Mais... pourquoi pas? Je dis pourquoi pas, vous voyez? Pourquoi pas?
Bon. L'autre jour aussi, on parlait du deuil, on parlait de la tristesse, et vous m'avez dit, non, mais la tristesse, il faut lutter, la tristesse, il faut se bagarrer contre sa tristesse. Qu'est-ce que vous
Parce
vouliez
que
dire
la tristesse pourrait nous faire baisser la tête et les bras.
Oui.
Parce qu'il y a de la tristesse qui est tellement forte. Tout à l'heure, on parlait vous avez porté le cercueil.
Oui.
Vous l'avez porté debout. Voilà. Si vous étiez écroulé, mais ce serait passé quelque chose d'ultra dramatique. Vous avez tenu debout, voilà. Eh bien, la tristesse, c'est ça. Je dirais, c'est la lutte contre ce qui nous atterrerait. Voilà. Eh bien, moi, je crois qu'il faut lutter, trouver en soi la force de lutter contre la tristesse pour ne pas nous laisser emporter dans le tourbillon funeste de la tristesse, mais lutter contre cela, et là c'est une lutte contre soi-même. Et je dirais, l'espérance chrétienne nous aide à lutter contre cette tristesse qui pourrait nous accabler et nous tenir prostrés tout au long de notre vie. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à se relever dans le deuil. Je dis, ben, on n'est pas fait pour vivre dans le deuil permanent. On est fait pour vivre, tout simplement, pour vivre. Voilà. Et alors, donc, il y a des choses qui nous empêchent de vivre. Eh bien, on lutte contre. Voilà. On a une maladie, mais on lutte contre la maladie. On a un accident, on lutte contre cela. Et pour cela, beaucoup de handicapés nous montrent ô combien les Jeux Olympiques, les Paralympiques, là, nous ont montré combien il était possible de vivre avec des choses en moins, hein, avec des bras en moins, des jambes en moins, etc. Enfin, là, nous avons une leçon extraordinaire. Et ouais. Je dirais, voilà comment nous pouvons lutter contre, nous devons lutter contre la tristesse. Hein. On a des passages de tristesse. Il faut les assumer.
Oui, ils seront là. De toute façon, ils seront là. Oui.
Mais nous ne pouvons pas entretenir la tristesse. Voilà. Là, je crois que nous avons à lutter contre cette tristesse qui voudrait un peu nous mettre la main dessus et nous garder là, dans cette espèce de cocon qui n'est pas bon, qui n'est pas épanouissant. Nous sommes faits pour vivre debout, voilà. Hein, et y compris lorsque nous portons un cercueil, debout.
Ouais.
C'est important, ça. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, hein, ce cercueil. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais... Enfin,
il y a des moments où en fait la vie vient vous proposer des choses. Il y a des fenêtres dans cette tristesse. Il y a des petites fenêtres qui s'ouvrent. Voilà, et il faut y être attentif. Et c'est vrai que suivant le temps qui s'est écoulé, les circonstances, ben voilà, ces fenêtres, on les voit ou on les voit pas. Et donc, mais la vie provoque toujours des choses. Vous remet dans le circuit. Est-ce que vous, à ce moment-là, vous êtes prêt ou pas? Ça dépend de chacun. C'est vraiment très personnel.
Ça, c'est évident.
Voilà.
C'est évident.
Mais avant de convoquer le souvenir et d'être apaisé avec ça, il se passe beaucoup de temps. Hein. Moi, je vois encore, et je pense que ça durera un certain temps. Il y a des fois, un morceau de musique... une silhouette dans la rue, un chapeau qui me rappelle mon épouse, et je suis effondré. Et parfois, je me dis, tiens, il y a encore, pas plus tard que ce week-end, un signe qui était là, et j'étais moins triste, j'étais plus en paix, on va dire, avec ça. Mais ça dépend vraiment de chacun, du moment, et puis un jour n'est pas le même que le précédent. Donc, il faut laisser entrer la vie quand elle se présente. Elle va provoquer des choses.
Il faut faire en sorte aussi qu'elle se présente. Hein. Je ne peux pas vivre en regardant derrière seulement. Je dois vivre devant. Parce que c'est sûr que Sylvie ne voudrait pas vous voir malheureux.
Oui.
Ça, c'est sûr. Vous allez persuader.
Elle nous l'avait dit aussi. Elle me l'avait dit. Oui.
Ben voilà. Et donc, il faut répondre à ce vœu.
Parce que c'était
son vœu.
Mais j'y pense souvent.
Moi, je crois que ça, c'est important. Ouais. Et puis, je ne crois pas qu'on soit fait pour être dans la tristesse. Même des gens qui vivent dans la pauvreté, dans le dénuement, etc., dans l'échec, etc., bon, il y en a beaucoup qui, tous, ne finissent pas pendus. Hein, et heureusement.
Ils trouvent quelque part autour d'eux,
etc., ou en eux-mêmes, en force. Et lorsqu'on a affaire, je crois, à un deuil, c'est à celui qui est parti. Je lui dis, aide-moi maintenant. Aide-moi. Tu m'as privé de toi, aide-moi.
Ouais.
Il faut que je continue. Et voilà, aide-moi. Moi, je crois dans la communion des saints, mais je me situe en croyant. Vous voyez, voilà, mais je ne peux pas faire autrement.
Ouais. Bon.
Mais enfin, bon.
Ok. C'est une bonne, peut-être une bonne conclusion. Est-ce que vous avez quelque chose à un autre message cette partie de personnes qui est en deuil, est-ce que vous avez quelque chose de plus ou pas?
Ne désespère pas. Ouais. La vie est un long chemin, et la mort est un passage. Voilà.
Ouais. Ouais.
Pour moi, c'est ça qui est important, je crois. Et un passage vers la paix ou vers la lumière, etc. Sylvie qui a tant souffert, hein, elle a souffert physiquement,
oui, tout à fait.
Psychologiquement aussi, le temps d'assumer sa maladie, de se dire, je m'en vais vers la mort.
Ouais.
Bon, mais la mort comme passage.
Tout à fait.
Sinon, on ne m'aurait pas appelé, on aurait dit arrêtez, c'est pas la peine de vos histoires.
Oui.
Voilà, hein,
exactement. Donc,
je crois que c'est important. Et ça mérite, en tout cas, ça mérite mon respect, ça c'est évident. Hein, mais ça me conforte aussi dans mes convictions.
Et puis on dit, le passage, le pas, sage, hein, en deux mots. Voilà,
bien sûr.
Ça, c'est quelque chose qu'elle avait bien intégré. Ouais. Plus que nous, d'ailleurs, moment-là.
Bon, après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont une force d'âme qui est extraordinaire, c'est vrai.
Ouais.
Bon, tant mieux, on peut être jaloux. Moi, je suis un peu jaloux.
Ouais.
Ben oui, mais c'est de la bonne jalousie, c'est-à-dire oui, oui. Ça nous pousse en avant.
Oui, oui, tout à fait.
Ça nous pousse en avant, ça nous dit, allez, n'en reste pas à ce que tu es, allez, continue.
Ouais.
Et voilà. Okay. C'est possible, c'est possible. C'est possible pour nous, humains, c'est possible, voilà. Puisque d'autres l'ont fait, enfin, parce que c'est formidable d'avoir des exemples comme ça. Enfin, ça nous booste, ça nous booste.
Alors, je crois que vous partez bientôt à la retraite, c'est ça?
Oui, c'est vrai. Et dans un mois, tout juste.
Dans un mois, ok. Un mois, écoutez, je vous souhaite bonne route, au plaisir de vous croiser. Oui. Et
voilà, ça ne veut pas dire que j'arrête d'être prêtre, etc.
Oui,
je vais continuer à donner des coups de main aux camarades prêtres qui ont besoin de temps en temps de prendre du repos, bien qu'ils sont malades, etc.
Oui, oui,
des fois,
oui,
on
n'a
pas
le
droit d'être malade, vous savez. Ouais. Même malade, on continue à célébrer, etc. Bon, des fois, si quelqu'un me dit, ben, écoute, je ne me sens pas bien, viens, est-ce que tu peux venir m'aider?
Alors, d'accord.
Bien, voilà.
Ok.
Ça, bon, très bien. Pour toujours là.
Ouais, ouais. Ok.
On a des forces.
Très bien, très bien. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci Dominique, merci du fond du cœur. Voilà. Et puis, au plaisir alors.
Ben,
et bonne continuation.
Très, très bien. Merci à vous. Hein.
Merci.
Merci à vous. Ouais. Et bon courage en tout cas. Ouais.
Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et si vous voulez soutenir mon initiative, vous trouverez un lien dans la description ou bien sur la plateforme Ulule. Dans tous les cas, merci. Je veux vous encourager. La vie est là, profitez-en. Vous pouvez traverser. Et surtout, cultivez l'amour. C'est le plus important. À bientôt.
Plus de parfums que d'épines, puis tout. Qui est à sa place? Qui est à sa place?